doctorante, doctorant ou jeune docteur, vous vous intéressez à l'entrepreneuriat et au concours iPhD, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Élodie Chabrolet et avec mes invités, nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce concours. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode du podcast iPhD. Aujourd'hui, mes invités vont répondre à une question que beaucoup de chercheurs entrepreneurs se posent, comment rencontrer des clients ou des prospects. Et cet épisode est un peu spécial puisqu'on a deux invités qui parleront français et un invité qui parlera anglais, donc c'est un épisode un petit peu hybride aujourd'hui. Avec moi pour répondre à cette question, on a Amit Kumar de Targeted Therapeutics. Bonjour Amit.
Bonjour.
Donc toi, you will be speaking English, right?
Yes.
Thank you. On a Yacine Esmili de Axiom. Bonjour Yacine.
Salut Elodie.
Et on a Soufiane Ajana de Retinet.
Oui, c'est bien moi. Salut tout le monde.
Bonjour à vous trois. Alors, est-ce que avant qu'on commence, vous pouvez un petit peu nous présenter vos projets? On va commencer par Yacine. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Axiom, s'il te plaît?
Alors, Axiom, c'est un projet éducatif qui a pour vocation de réinventer l'expérience d'apprentissage des mathématiques en les rendant personnalisées, inclusives, mais aussi valorisantes et ludiques. Donc aujourd'hui, la plateforme est une plateforme d'apprentissage en ligne qui est dotée de ce qu'on appelle un assistant pédagogique intelligent, qui va être capable de diagnostiquer les lacunes des élèves et de leur allouer des parcours d'apprentissage adaptés.
Ok, et ça c'est une idée que tu as eue pendant ta thèse ?
Tout à fait. Moi, j'étais enseignant, donc j'ai fait une thèse en mathématiques théoriques.
Ouais.
Et pendant ces années de thèse, j'ai accompagné beaucoup d'élèves en difficulté dans leur apprentissage des mathématiques.
Ouais.
Et ces élèves, en fait, se plaignent le plus souvent d'avoir accumulé un certain nombre de lacunes,
ouais,
parfois remontant au primaire, et qui les empêchent aujourd'hui d'avancer. Alors, à l'époque, j'avais rêvé d'un outil qui me permettrait de diagnostiquer les lacunes des élèves, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. On estime qu'il y a 900 compétences entre le primaire et le lycée.
Ouais.
Et cette complexité est difficile à appréhender par un humain. Et donc, le recours à de l'intelligence artificielle permettrait de répondre à cette solution, à cette problématique, pardon. Et donc, c'est ça la genèse, on va dire, du projet.
Et là, quelle est la maturité du projet en ce moment ?
On a des briques technologiques qui ont été développées déjà, en partenariat,
ouais,
avec INRIA. Aujourd'hui, on est en création des interfaces graphiques, des interfaces utilisateurs, et on est en phase de test avec différents groupes d'élèves et d'enseignants. Le but est de pouvoir itérer un certain nombre de fois avec nos utilisateurs en recevant leur feedback et en co-construisant une solution avec les enseignants pour, d'ici quelques mois, lancer une première version de notre MVP.
Super. Et toi, quel est ton statut en ce moment ? Est-ce que... T'as soutenu ta thèse ?
J'ai soutenu ma thèse, oui, ça fait,
ouais,
à peu près un an et demi. J'ai tout,
ouais,
de suite enchaîné avec une aventure entrepreneuriale.
D'accord.
En rejoignant le startup studio d'INRIA.
D'accord.
Donc, pendant un an, j'ai été payé par INRIA. Le projet a été financé avec mon cofondateur. On a aussi eu la chance de collaborer avec des chercheurs vraiment de renommée internationale en matière de machine learning appliquée à l'éducation.
Ouais.
Et aujourd'hui, la boîte, on s'apprête à la créer. Donc,
d'accord,
ça devrait se faire dans le courant du mois avril.
Super. Ah oui, c'est vraiment bientôt. Bon, on va
oui,
pouvoir suivre ça.
Bientôt, oui.
Super. Soufiane, est-ce que tu peux un petit peu nous en dire plus, toi aussi, s'il te plaît, sur ton projet ?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je porte le projet Retinet, dont l'objectif est de prédire, afin de mieux prévenir, donc la survenue de maladies nécessitantes et incurables, appelée la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette maladie évolue selon deux stades. Un stade précoce qui est asymptomatique, puis un stade avancé qui, lui, est caractérisé par l'apparition d'une tache noire au centre de la vision et qui pourrait s'élargir avec le temps, menant à la cécité. Et donc, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous proposons aux patients et à leur ophtalmologiste un service de médecine personnalisée basé sur une plateforme digitale appelée MacuTest et centralisant donc toutes les étapes de prévention de la DMLA, permettant ainsi aux patients de saisir ces données cliniques et de mode de vie, ainsi que de commander un test génétique, et le tout bien sûr sous la supervision de son médecin. Puis ensuite, la plateforme MacuTest doit fournir aux patients, sans risque, de progresser vers le stade avancé de la DMLA, donc le stade avec la fameuse tache noire au centre de la vision, en plus de lui proposer un accompagnement personnalisé adaptés à ses besoins réels, donc en termes de mode de vie, afin qu'il puisse agir sur son risque. Okay. Et donc, c'est le tout qui fait la prévention, donc la prédiction du risque, puis l'accompagnement derrière.
Et ce projet, il est né pendant ta thèse aussi ?
Oui, exactement. Donc, ce projet a vu le jour pendant mon doctorat, parce que j'ai eu l'opportunité de faire mon doctorat dans le cadre d'un consortium européen qui s'appelle iRisk, pour répondre à un appel à projet européen donc dans le cadre du programme Horizon 2020. Mm-hmm. Et donc, nous avons été plusieurs, 14 exactement, donc chercheurs et industriels, à travailler main dans la main pour aboutir à une telle technologie. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons vraiment travaillé avec toutes les personnes qui avaient ce besoin. Donc, nous avons travaillé avec les ophtalmologistes, avec les entreprises pharmaceutiques, mais également avec des associations de patients. Et donc, et chaque étape du développement de cet algorithme a été validée par ces personnes qui avaient le besoin. Donc, on n'est pas juste resté dans notre coin en train de développer notre technologie, puis d'un coup, on sort la tête de l'eau pour dire alors qui c'est qui en a besoin. Donc, vraiment, toutes les étapes du développement ont été validées et consolidées par les personnes qui avaient ce besoin. Et donc, et puis ensuite, moi, contrairement à Yacine, ça n'a pas été très, très fluide pour moi, puisque pendant ma thèse, en fait, j'avais fait plusieurs événements de vulgarisation. Donc, comme ma thèse en 180 secondes ou comme PubHD, par exemple, qui sont des événements vraiment très constructifs. Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait peu de gens qui savaient ce qu'était la DMLA et qui étaient conscients de l'importance de pouvoir agir par rapport à cette maladie. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, et c'est là où je me suis dit, ben, je vais sensibiliser les gens à mon échelle. Et donc, j'ai fait un tour d'Europe en vélo pour sensibiliser les gens. Et donc, chaque soir, je frappais aux portes des gens pour leur demander de m'héberger. Et puis, j'en profitais pour leur parler de la maladie. Et c'est pendant ce voyage que j'ai rencontré, ou plutôt que j'ai été hébergé par une personne qui avait la DMLA.
Ouais.
Et c'était totalement par hasard. Et donc, on a passé toute la nuit à en discuter. Et puis, moi, je partageais avec elle tout ce que je savais, puis les différents développements à venir et tout. Et puis, le lendemain matin, je me rappelle, elle s'est réveillée, elle m'a dit, Soufiane, écoute, moi, il est déjà trop tard pour moi parce que j'ai déjà le stade avancé de la maladie. Mais j'ai des enfants qui ne l'ont pas encore. Et pour mes enfants, s'il te plaît, fais quelque chose. Voilà.
Okay.
Ne passe pas à autre chose. Parce que quand elle me demandait ce que je voulais faire dans la vie, j'étais là, je ne suis pas sûr. Peut-être que je resterai là-dessus. Peut-être que je ferai autre chose. Mais là, quand elle m'a dit ça, c'était vraiment le moment révélateur pour moi. Et vous savez, quand on pédale une centaine de kilomètres par jour, on médite beaucoup.
Ouais.
On médite beaucoup sur son vélo. Et donc, j'ai eu le temps de bien réfléchir sur la question. Et c'est là d'où est venue justement cette envie et ce besoin même de vouloir lancer ma start-up pour rendre mes travaux de recherche accessibles au grand public. Et donc, dans la foulée, tout s'est fait assez rapidement après. Donc, j'ai eu un financement qui s'appelle Spark, qui est donc une initiative lancée par l'Université de Stanford de médecine aux États-Unis, et conjointement donc ici avec l'Université de Bordeaux. Et puis ensuite, j'ai été incubé dans l'incubateur Chrysalink de la Stat Aquitaine Science Transfer, qui m'ont accompagné pour avoir et décroché iPhD. Et puis là, dans la foulée, j'ai pu intégrer donc HEC pour, dans le programme Challenge Plus, pour m'aider à affiner davantage le business plan et puis essayer de déconstruire mon projet pour mieux le reconstruire. Et puis là, j'ai postulé à iLab. Et puis là, je fais le podcast. Donc, au revoir.
C'est
la prochaine étape. Voilà, là, on enchaîne.
Là, ton statut en ce moment, c'est...
C'est un statut bâtard.
C'est un statut...
Non, je plaisante.
T'es étudiant, t'es étudiant HEC, du coup
Non, ben là, du coup, je suis post-doctorant.
T'es post-doctorant,
À l'Université de Bordeaux, parce que justement, le programme Spark que j'ai décroché, ça m'a permis d'avoir 100 000 euros. D'ailleurs, j'encourage vraiment tous les gens qui lancent des projets dans l'innovation en santé d'aller se renseigner par rapport à ce programme. C'est un programme hyper intéressant parce que on te donne 100 000 euros, c'est une subvention. Vraiment, ce n'est pas un prêt. On te donne 100 000 euros parce qu'on croit en ton projet. Et ces 100 000 euros, moi, par exemple, je les ai utilisés pour établir un contrat de post-doctorat ici avec l'Université de Bordeaux, ce qui me permet aujourd'hui d'être payé comme un post-doctorant et puis de pouvoir me consacrer à 100% à mon projet de start-up sans me soucier de l'aspect financier. Et ça, franchement, ça, c'est un luxe que peu d'entrepreneurs ont, et j'en suis conscient. Et donc, si vous pouvez, vous aussi, qui nous écoutez, en bénéficier, sachez que c'est vraiment abordable et accessible.
D'accord. Merci beaucoup pour tous ces petits conseils déjà. And now we're going to move to Amit. Can you tell us a bit more about your project? Et yeah. Après, on ouvrira la discussion sur comment trouver des potentiels clients et prospects avec vous trois. Et ça va être intéressant, ce jonglage entre le français et l'anglais. But first, Amit, can you tell us more about your project, please?
Yes. My project is based on target drug deliveries. Mm-hmm. So we are trying to develop some specific kind of drug delivers which can encapsulate any kind of hydrophobic or hydrophilic drugs, and then after delivered to the body, and then specific once it is reached to the target, and then you can activate from outside and release the drug. So in current situation that we succeed to develop such kind of nanocarriers which can encapsulate all kind of drugs and large molecules, small molecules, and the very, very toxic molecules which are really, really good for the treatment. And then we succeed to achieve to go on certain organs like liver, kidney, spleen. And then we also enhance the theragnostic effect as well by using all these kind of nanocarriers.
What is this effect?
Theragnostic effects. So this effects, which is like the combined of the therapeutic and diagnostic. So okay. The diagnostic effects, we develop some specific kind of nanoparticles which you can embed it with the nanocapsules, and then you can visualize them by using either MRI or some specific kind of fluorescence equipment or something else.
That's very cool. What's the maturity of the project right now?
So In the beginning, our target to develop these molecules, which we achieved, and now we also achieved, like we can reach to the organ and release the drug, and then we can also encapsulate many kind of drugs, like even proteins or RNA or some very small, tiny molecules, like you can say paracetamol, actually, if it is okay. The very tiny molecule. Yeah, it's just an example.
And this was an idea you had during your PhD?
No, in the beginning, we didn't have, but the aim was to use some specific kind of redox sensitive molecule. So we developed some redox probes. And then my boss, my thesis advisor, said, okay, Amit, now we can try something very useful that we can use for the commercialization. So then we start slowly in 3 years of my PhD, we continue to work on it, and then we succeed end of my PhD.
And what is your status now?
So status, we already have this CNRS prematuration, and then now we are working on cell-specific therapy. Once mm-hmm. we achieve this organ-specific, but we want to treat the disease on very cellular-specific. So we did the development with our molecule. So now we can reach to the cell and treat the disease in the cells.
And are you a postdoc now?
Yes, I am a postdoc now. Okay, so I'm continuously working on my after my thesis on this project.
Thank you. Wow, those are amazing projects, all three. Yeah. C'est vraiment des super projets. Maintenant, la grande question qu'on se pose, comment est-ce qu'on passe, parce que ça doit être un exercice compliqué. Et souvent, en fait, quand on parle chercheur-entrepreneur, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, de se dire... Autant, j'ai pas trop peur, le business, je peux apprendre, mais trouver des clients ou des prospects, c'est vraiment le truc qui me fait peur. Quelles ont été les étapes? Comment est-ce que vous avez fait? Yacine, comment t'as fait? Raconte-nous un petit peu le process.
Alors, je pense qu'effectivement, quand on est chercheur, on n'a pas forcément cette fibre du commercial qui va aller vendre un outil ou savoir comment le raconter pour donner envie à des gens de se joindre au projet ou d'adopter la solution. Alors, pour mon cas particulier, moi, je pense que j'ai toujours eu un peu de facilité avec les contacts sociaux. Donc, c'est pas une grande sortie de ma zone de confort pour aller chercher des prospects ou des gens qui seraient intéressés par cette solution. Donc, la première des choses qui a été faite, ça va être de comprendre l'écosystème, ces enjeux, ces acteurs. Dans mon cas, par exemple, ça va être les professeurs, les proviseurs, les organismes de soutien scolaire de type Academia ou Complétude. Enfin, tous ces gens-là peuvent être intéressés par cette solution. Ils gravitent autour de la solution que nous développons. Et donc, principalement, il y a eu deux outils majeurs qui m'ont permis d'avoir des partenaires et des prospects. Le premier, ça va être LinkedIn. Je pense que c'est un outil ultra puissant qui est encore assez peu connu, en tout cas des docteurs. Moi, quand j'étais les docteurs en général, les chercheurs, ils sont sur ResearchGate. Donc, ce n'est pas vraiment la plateforme. Mais de plus en plus de gens se mettent sur LinkedIn et c'est particulièrement adapté pour aller chercher les décideurs et les convertir potentiellement en des partenaires ou des clients. Donc, vraiment, LinkedIn, ça a été une grosse source d'acquisition de partenariat.
Et comment tu fais, du coup, parce que y en a plein qui vont se dire « Ok, LinkedIn, mais t'es allé chercher les gens, t'es allé chercher des profils, tu tapais des mots-clés, c'est ça en
fait ?» Je tape des mots-clés, exactement. Donc, par exemple, je cherchais à nouer des partenariats avec des organismes de soutien scolaire. Bien, je tapais sur LinkedIn « cours particuliers »,« cours de soutien », et donc je tombais sur des décideurs qui étaient des CEO de boîtes. Et donc, je les contactais. En général, les gens, quand je les contactais, je les contactais pas pour leur vendre des choses. Ouais. C'est d'abord pour comprendre leurs besoins, récolter en fait l'expression de leurs besoins, ça c'est ce qui est le plus important au départ, je pense. Et donc une fois qu'on a fait ça, on noue une espèce de lien avec ces personnes, et puis si la solution qu'on développe répond à leurs besoins, eh bien en fait ça devient assez naturel de collaborer ensemble. Donc LinkedIn, c'était un vrai bon moyen. Ensuite, il y a tout ce qui est association. Par exemple, moi je développe une boîte dans le secteur éducatif, et il se trouve qu'il y a une association qui s'appelle EdTech Hauts-de-France. Moi, je suis dans la région du Nord, donc EdTech Hauts-de-France, mais aussi EdTech France, qui recense pas moins de 250 entreprises, je pense, du secteur éducatif, avec aussi des tiers-lieux éducatifs, des écoles, donc un réseau de professeurs, de responsables pédagogiques, etc. Et donc, en me rapprochant de cette association, eh bien, j'ai été mis en contact assez naturellement avec des responsables pédagogiques, notamment dans la région Lille. Et donc, suite à ça, on a fait des expérimentations terrain à grande échelle, des fois avec une expérience mobilisant 400 élèves et une douzaine d'enseignants. Donc, c'est plutôt chouette. Et donc, à partir de là, eh bien, les choses commencent à se faire. Le réseau commence à s'élargir progressivement. Mmh. Un responsable pédagogique qui en parle à un autre. Et puis ça commence à se nourrir petit à petit. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là. LinkedIn, la connaissance du réseau. La connaissance de l'écosystème, ça peut être assez précis, comme par exemple le cas de EdTech Hauts-de-France dont je vous ai parlé, mais aussi le réseau des incubateurs. Moi, je suis à Euratechnologie, qui est un très grand incubateur français, avec plus d'une centaine d'entrepreneurs, plus d'une centaine d'entreprises déjà établies. Et donc là aussi, il y a des synergies à explorer. Donc le réseau est vraiment super important.
Et le truc qu'on peut retenir aussi, c'est que, en fait, il ne faut pas aller les contacter quand on a déjà une solution. C'est limite une peut-être pas co-construction, mais la solution est réfléchie en discutant avec eux.
Exactement.
Parce que de toute façon, c'est les utilisateurs. Et c'est vrai que réfléchir une solution sans les utilisateurs, au final.
Tout à fait. Voilà. Alors, moi, effectivement, je pense que c'est une force d'aller voir les gens. Les gens sont en général très contents de parler d'eux. Quand vous demandez comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien, leur pain, qu'est-ce qu'ils rencontrent au quotidien comme difficulté, etc., les gens sont prêts à répondre et ils ne se sentent pas dérangés quand vous leur posez ces questions. Moi, j'ai eu au début, il y a peut-être ce frein où on se dit on va déranger les gens, ils ne vont pas vouloir nous accorder de temps, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai eu que des retours positifs et des gens qui étaient prêts à parler. Mais évidemment, il ne faut pas leur vendre des choses dès le départ. Et dans tous les cas, ce n'était pas l'objet. Puisque nous, moi, j'avais un cœur technologique, mais en fait, la solution reste à développer. Mmh. Et pour qu'elle soit développée et qu'elle réponde à de vrais usages, il va falloir la co-développer avec les stakeholders, donc les parties prenantes directes qui peuvent être concernées par le projet.
Soufiane, t'as fait comment, toi ? Un peu la même chose ?
Non, moi, je suis d'accord, je suis d'accord sur des points, mais pas trop sur d'autres points avec Yacine.
C'est des projets différents, c'est ça qui est intéressant.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, justement, et là, on voit vraiment qu'on évolue dans deux sphères totalement différentes, tous les deux. Parce que tu as beau avoir le contact social facile, ce n'est pas pour autant que les gens vont te répondre. Tu vois, t'as beau être très avenant, tu vois, et ça c'est intéressant parce que moi ça je l'ai appris puisque moi, enfin mes utilisateurs principaux sont les ophtalmologistes. En gros, si l'ophtalmologiste ne prescrit pas mon service à son patient, ben ça ne va jamais se vendre. Voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et de mon côté.
Et du coup,
par exemple, Ben moi du coup je suis passé, enfin je me suis dit, donc j'ai eu le même réflexe que Yacine, ben vas-y je passe sur LinkedIn, par LinkedIn. Et d'ailleurs pour parler par rapport à LinkedIn, il ne faut pas attendre, et là je dis ça aux gens qui nous écoutent, il ne faut pas attendre d'avoir besoin de LinkedIn pour aller constituer son réseau à LinkedIn.
Oui,
parce que quand on a besoin, c'est qu'il est déjà trop tard.
Exactement, voilà, c'est ce que je dis souvent.
Non mais c'est vrai, il faut vraiment être proactif. Moi par exemple pendant ma thèse, tous les jours, voilà, je prenais une demi-heure. Et je rentrais sur LinkedIn et je spotais 10 profils qui me paraissaient intéressants, avec qui je pourrais peut-être collaborer dans le futur, et je les ajoutais avec un petit message personnalisé. Et là maintenant, ça fait que j'ai 13 000 personnes dans mon LinkedIn. Mais c'était vraiment quotidiennement. Et donc, c'est aussi cette régularité et cette résilience quelque part, parce que même le dimanche, quand on n'a pas envie de faire ça, ben, tu te lèves, tu te dis, allez, je prends une demi-heure et je le fais.
Et c'est comme ça aussi qu'on entretient. Et avoir un profil qui est bien complété.
Ouais,
et avoir un profil bien complété, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, d'avoir un profil pas du tout à jour, en fait, et qui se disent « Ah, je comprends pas, les gens me répondent pas. » Bah ouais, mais bon, il n'y a pas de photo, on sait pas qui tu es, etc.
Ouais, c'est ça, puis même, il faut détailler ce qu'on fait. Enfin, vraiment, quand par exemple, tu vas dire que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans telle structure, ben tu dis ce que tu as fait, les principales missions. Enfin, voilà, comme ça, vraiment, plus les gens vont avoir une vue globale, une vision globale de ton profil sur LinkedIn, et plus ils auront tendance et envie à venir te parler et à apprendre à mieux te connaître, puis peut-être à collaborer avec toi ultérieurement. Voilà, donc c'est vraiment, je dis le réseau. D'ailleurs, moi, si jamais à un moment dans ce podcast on arrive à ce que IPHD m'a apporté, ben c'est le réseau. Vraiment, c'est le réseau et c'est le label IPHD. Mais bon, je continue par rapport à ta question. Ouais. Et donc, malgré mes 13 000 contacts, j'envoyais des messages à des ophtalmos, je ne recevais pas de réponse. J'ai envoyé, je pense, vraiment une cinquantaine de messages à des ophtalmos qui étaient dans mon réseau en plus. Voilà, et avec qui, enfin, genre, je partageais des news et tout. Mais j'ai eu une seule réponse, des 50. Et là, je suis parti demander à la personne qui m'a répondu. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me répond pas? Enfin, je sais pas, est-ce que je pue? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Et là, elle m'a dit, mais tu sais, des messages comme les tiens, on en reçoit des centaines par jour. C'est même pas par semaine, par jour, des sollicitations comme la tienne. Et donc, c'est normal, même si ces personnes te voient passer dans leur fil d'actualité, de temps en temps, vous échangez autour d'un poste ou deux, mais ce n'est juste pas suffisant pour avoir leur intérêt. Et donc, c'est là où je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut sortir du labo. Voilà, donc j'ai essayé en restant dans mon labo dans mon schéma avec le confinement pour le coup, et ça ne marche pas, ben, je me suis dit, ben, c'est quoi? Ben, sors du labo et va frapper à leur porte. Et donc, ben là, j'ai commencé à me dire, enfin, ça tombait bien, j'ai pas de lunettes, ben, allez, vas-y, ben, je vais me faire des lunettes, même si j'en ressens pas vraiment le besoin d'avoir des lunettes, mais de toute façon, ça fera pas de mal. Et du coup, ben, je suis parti prendre un rendez-vous, chez un ophtalmo, du coup, pour faire des lunettes. Et donc, quand mon tour arrive chez l'ophtalmo, ben, du coup, il y a toujours la question où il te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, quelle est votre activité professionnelle? Et du coup, là, épidémiologiste, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un doctorat en épidémiologie. Et puis, du coup, j'ai commencé à lui poser des questions. En fait, je faisais mon questionnaire, je faisais mon étude de marché pendant la consultation. Et c'est ça qui était hyper intéressant. C'est qu'après l'ophtalmo, il a vraiment posé son stylo, quoi. Et il a commencé à m'écouter. Et je lui ai dit, est-ce que ça ne vous dérangerait pas de répondre à deux, trois questions? Il m'a dit, allez vite, parce qu'il y a quand même des gens dans la salle d'attente qui attendent. Mais OK, d'accord. Et du coup, mon passage a duré un petit quart d'heure. Et ça a duré minimum pour un entretien, voilà, 15-20 minutes, ça c'est bien pour avoir déjà un premier avis sur le besoin, comme a dit tout à l'heure Yacine.
Mais après ça, tu ne peux pas le faire en masse. Tu peux pas en voir, je ne sais pas, une centaine. Est-ce que, par exemple, des congrès, ce genre de trucs, congrès d'ophtalmologie, est-ce que c'est ce genre d'endroit où tu vas? Tu vas, tu prépares, tu as du matos pour parler du projet. Comment tu fais?
Non, c'est vrai. Ben, voilà, et c'est là où, par exemple, le trait de caractère dont tu avais parlé, Yacine, devient intéressant. Parce que là, pour le coup, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Voilà, vraiment. Donc, dès qu'il y a une conférence, dès qu'il y a un congrès, un salon dans lequel tu sais qu'il pourrait y avoir des futurs utilisateurs ou clients potentiels pour ta technologie, tu y vas. En fait, tu ne te poses pas de questions. Ou tu t'associes avec quelqu'un, enfin, si toi, tu n'es pas à l'aise à aller harceler les gens, parce que c'est vraiment du harcèlement. C'est tu restes avec la personne et
du gentil harcèlement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, on va pas non plus commencer à menacer les gens.
Ouais, ouais. Mais c'est juste... Ouais. Voilà. T'associer quelqu'un qui est capable de le faire si besoin.
Exactement. Qui n'a pas peur d'aller parler aux gens, de se présenter. Et si jamais on te met un vent maintenant, ben, tu reviens à la charge une heure, deux heures plus tard, à l'heure du déjeuner, où souvent il y a des cocktails en fin de journée. Donc, en fait, il y a plusieurs opportunités pour faire ça. Mmh. Et vraiment, voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens qui pourraient être intéressés. Donc, vraiment.
C'est un peu comme Yacine, hein, c'est-à-dire qu'il y a la version virtuelle, il y a la version en vrai, mais en gros, aller vers les gens, aller contacter, aller les voir. Amit, do you have the same advice? You have something more? How did you do?
In the beginning, because the project was very broad, and so we have lots of collaborator in concern of the application, because some people are really expert in the polymer and some people were expert in the biology. So we had a good communication and the connection in between us. So the platform was already built up. But as the project finished up my PhD, so we need some more collaboration or some more people around us that who can work with us. So we started to connect the people through the old collaborator. Mm-hmm. And then like this, we started to build up a different team and with the old team, and then the project start to work again, because after PhD, it was almost, we did nothing for 6 months actually, because we were mm-hmm. suffering that how to get the results and then go for maturation of the project. And then like this, with the communication and with the connecting the people through the collaboration or some like having some connection through someone else, then we connected through this deep tech founders, and where we try to develop more connections for the project. And like this, we are continuing actually. We didn't went through the really with the LinkedIn, because my professor is not really fond of to go through this social media. Whenever I talked to him, he said, no, we have enough. So don't do it now, but maybe later we will do it. So that's how we are going on.
So it's networking as well. J'ai l'impression
yeah, it's a networking. Yeah.
Yeah, pour tout le monde, c'est networking, que ce soit virtuel, que ce soit en vrai, que ce soit à travers des associations, à travers des congrès. En gros, c'est aller trouver les gens qui sont soit vos utilisateurs, soit les gens qui seront intéressés par votre produit. Si j'essaie de résumer vos conseils, ne le faites pas quand vous avez quelque chose, faites-le en avance. Déjà, préparez, quand vous êtes entrepreneur, préparez votre réseau. Et ça, de toute façon générale, le réseau, c'est ce que je dis tout le temps aussi. Je suis d'accord avec toi, Soufiane. C'est pas quand on a besoin qu'il faut le bichonner. C'est trop tard, c'est avant. Et voilà, prendre les utilisateurs ou les éventuels acheteurs de produits ou prospects, en gros, en réflexion dès le début, et ne pas aller les voir en mode « je vous vends ça », mais plus « construisons quelque chose ensemble » pour justement les impliquer dans le projet le plus tôt possible, en fait.
C'est ça.
Just one question for Amit, because like you have a project that won't be commercializable right now, if I understand well, it will take some time. So how can you go and find some clients or prospects?
It can be commercialized. So the first thing, because it is a chemistry, total chemistry based, and for the chemistry, what we did, we asked the one company that were expert in the synthesis of the polymer. So we commercialize our product in the synthetic way. Okay. And now because the one part, which was the major part, because if the chemistry is not really set up or the process is not repeatable, so you cannot go further. First, we set up this part, which was okay. The company was able to synthesize on large scale, because I was doing on milligram scale or gram scale. Then they launched on like kgs. So it was fine. They succeed in 3-4 months. We did that, and now we are working on this biological applications, and some teams are really fond of that they are having good results with our molecule, what they are expecting and what they were suffering because of the toxicity or some bioavailability of the drug. So some team want us to increase the bioavailability and increase the dose with the less toxicity, and we are able to do it for them as well. So currently we are working on it, yes.
Great. Alors pour rebondir justement, donc là je pense qu'on a eu plein de petits conseils super importants. Soufiane, tu as parlé d'IPHD. Alors, du coup, on va soit ouvrir à ce que ça vous a apporté. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport aux clients, par rapport peut-être à des façons de faire, programme, est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que c'est vraiment surtout du networking? En gros, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus dans votre projet de participer à IPHD? Est-ce que c'est un label, du coup, qui vous permet d'approcher les gens avec ça en plus? Est-ce que ça vous a ouvert un réseau? Yacine, Soufiane, Amit?
Ouais. Alors, IPHD, pour moi, au stade d'aujourd'hui, donc sachant qu'on est à peu près à la moitié du programme, ça n'a pas encore apporté de clients ou de prospects. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça apporte une certaine crédibilité. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant. Enfin, là, par exemple, quand j'ai dit que j'avais intégré HEC, quand je leur ai dit que je suis lauréat IPHD, j'ai vu un petit sourire dans le sens où c'est comme si ça les avait rassurés un peu. En fait, ils doivent se dire, si BPI France et que le ministère de la Recherche et de l'Innovation a accrédité ce projet de start-up comme étant un projet innovant et à fort potentiel pour faire rayonner scientifiquement la France en Europe et à l'international, c'est que ils doivent, voilà, ce qui est une raison. Et donc, accordons à ce petit le bénéfice du doute. Voilà, parce que, et c'est vraiment ça, moi, c'est vraiment comme ça que je le valorise à IPHD, c'est vraiment pour pouvoir intégrer soit d'autres formations, soit pour pouvoir vraiment parler à des investisseurs. Voilà, enfin, par exemple, quand j'ai eu des investisseurs comme Elia, par exemple, ou d'autres investisseurs à qui j'ai pitché mon projet, le fait d'avoir IPHD, j'ai senti également que c'était gage de confiance.
Okay.
Vas-y, je laisse la parole à Yacine un peu pour qu'il me dise ce qu'il en pense.
On parlait tout à l'heure des prospects, d'une manière de les contacter ou de les attirer. Donc, globalement, il y a les prospects qu'on va aller chercher nous-mêmes, donc à travers LinkedIn ou des réseaux ou des congrès ou des choses comme ça. Et il y a aussi les prospects qui vont venir d'eux-mêmes. Et donc, pour ça, il va falloir communiquer. Et par exemple, moi, quand j'ai été lauréat IPHD, j'ai fait un post LinkedIn et ce post a généré 25 000 vues, ce qui n'est pas du tout rien, sachant que moi, dans mes contacts, j'ai à peu près 2000 contacts. Donc, 25 000 vues, c'est pas rien. Et dans le tas, il y a eu des gens qui m'ont contacté pour me demander soit des infos sur le projet, soit qui connaissaient déjà le projet et qui voulaient passer à une étape supérieure. Donc, vraiment, IPHD, c'est un concours national d'innovation. Même s'il vient de commencer, il n'est pas encore très connu, mais ça a quand même une marque de crédit, comme a dit Soufiane.
Ouais.
Et quand on est lauréat, on bénéficie aussi d'un label gouvernemental qui s'appelle Investir l'avenir. Donc, c'est le programme PIA.
Ouais.
Et qui représente vraiment une marque de crédibilité importante auprès des différents partenaires et prospects qu'on peut avoir. Concernant le programme d'accompagnement, c'est vraiment chouette. C'est fait par Deep Tech Founders, donc avec des
et
ateliers.
Et Adoc Talent Management aussi. Ouais.
Et Adoc Talent Management, tout à fait. Et donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'il y a un accompagnement sur les aspects personnels aussi, sur comment trouver son moi entrepreneurial, comment être aligné, comment construire une culture d'entreprise. Alors, pas nécessairement sur comment trouver des prospects, mais le programme n'est pas encore fini. Mais en tout cas, le fait d'avoir des entrepreneurs à côté, des témoignages, des gens sur qui on peut compter, et aussi il y a un réseau. Là, on est sur un Slack avec tous les lauréats IPHD, on est 43, on se file des tips, on se partage des documents qui peuvent être importants, on s'appelle pour savoir comment rédiger telle ou telle partie pour un concours qu'on est en train de... Donc ça, c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur et c'est vraiment très chouette de rentrer dans cette famille des lauréats IPHD. Et aussi, ça prépare pour d'autres concours potentiels, iLab qui a été mentionné par
This is like a huge platform for me, actually, and for my team. So we are two people in our team, and then maximum time I'm spending here in the lab. And it was a great platform that we got it, and then it's really helpful for us for the development of the project and the management of the project, and giving a thought like whether we are really valued for this or not, or can we reach to the target of that is in our thought. And I'm totally agree with Yasin and Sofiane. Actually, the way we thought and the way is we are seeing the projects, management, or the world is different, because when you are in lab, you just surrounding with these chemicals and the instruments, and you don't think beyond. You are going home and you have some friends, you always talk about the chemistry and all, but no, not this time. After getting entered in this IPHD program, And for me, it's the second term because earlier we continued with the deep tech founders also. Yeah. But that was very short term. But that was also very, very helpful. But still, we were stick on the chemistry. We were stick on the science. But now we start to go beyond the science. And amazing. Which is really, really good for us, actually.
Yeah, I totally agree with you, Amit, about that. And I would just like to bounce a little bit on that, about the network of IPHD entrepreneurs. Yes. Like, it's really, really, really great to have people like us struggling, like us having the same issues like us. And then just, you know, like said Yassine before, trying to help each other and try, you know, when you see that you're struggling with something and that you're not the only one struggling with that, then it really gives you an additional motivation to succeed and to exchange about that and to go further in the reflection and to enhance the situation. So yes,
that's true.
That's very really true. A great advantage of IPHD.
Thank you very much, all three. On va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un conseil? Alors, soit, je vais vous donner le choix, soit un conseil pour ceux qui hésitent encore à postuler pour IPHD, soit pour les chercheurs entrepreneurs qui, voilà, qui ont un petit peu peur de se lancer. En gros, j'ai une fibre entrepreneuriale, j'ai peur de me lancer, que ce soit pour le concours ou pour la start-up. Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous diriez au vous d'avant?
Il faut dépasser ses peurs et se lancer. Je pense qu'il n'y a pas de moment particulier pour se lancer. On se dit souvent, je vais attendre d'avoir un peu d'expérience ou de travailler un peu ou quoi. Je pense qu'il n'y a rien qui prépare à l'entrepreneuriat autre que l'entrepreneuriat lui-même. Quand on est confronté à la chose directement, c'est là où on apprend le métier. Et c'est une aventure vraiment fabuleuse. Moi, c'est vraiment un kiff depuis que je suis entrepreneur. J'ai fait une thèse, pas parce que je voulais faire une carrière académique, parce que j'avais une passion pour les maths. Et donc, le passage s'est fait de manière assez smooth vers l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui me sied beaucoup. Donc, je recommande de se lancer, de faire fi de ses peurs et de se faire accompagner aussi, parce qu'il y a plein de structures qui peuvent accompagner et qui peuvent faire en sorte que vous vous sentiez moins seul dans votre aventure. Parce que c'est vrai que c'est difficile.
Hein,
tout ce qui est incubateur, SAT, INRIA, j'en parlais tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des organismes qui ont été conçus pour accompagner les entrepreneurs et donc il ne faut pas s'en priver.
Soufiane, un petit conseil?
Ouais, carrément. Qu'est-ce que vous risquez? Non, mais vraiment, en fait.
Non, mais je l'entends souvent, fois, ça, effectivement.
Non, mais des fois, il faut aller en fait, juste à la base. Qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous risquez votre vie? Est-ce que vous risquez... Enfin, qu'est-ce que vous risquez? Franchement, en plus, c'est gratuit, la participation. En fait, des fois, moi, je veux juste que les gens réalisent que c'est juste un cadeau qui est offert par le gouvernement, ce concours. C'est vraiment un cadeau qui est offert et que du coup, il ne faut vraiment pas hésiter. Enfin, si vous croyez en votre projet, si vous pensez que vous avez un projet innovant, et souvent, ce qui retient les gens, c'est qu'ils ne savent pas. C'est qu'ils se disent, moi, en fait, j'ai fait une thèse, mais mon projet sera commercialisable peut-être dans 10 ans. Et donc, je ne vais pas tenter le concours. Non, il y a beaucoup de gens, et donc de lauréats IPHD, dont le projet sera commercialisable dans 10 ans. Parce qu'ils travaillent dans des biotech et qu'ils développent des molécules pour guérir le cancer, par exemple. Et bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais donc, ce n'est pas une question de temporalité. En fait, c'est juste, au pire des cas, essayez, postulez. Et puis, si vous êtes pris, c'est tout bénef. Si vous n'êtes pas pris, au moins, vous aurez un feedback. Et puis, au moins, vous saurez comment rebondir là-dessus. Puis après, essayez peut-être d'entreprendre cette aventure entrepreneuriale différemment.
OK. Merci pour ce conseil. Amit, an advice?
Yeah. So even though when we finished our masters, you know, we didn't know whether PhD, people thought PhD, or let's do it. No, it's not an easy task to do the PhD. And then second step, this entrepreneurship, it's not really very easy task, but because as we did the PhD and we love to take the challenges, and it's why not to take another challenge? That's it.
Amazing. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour tous vos conseils et toutes les infos que vous avez données. On peut vous retrouver. Je vais mettre tous les liens vers LinkedIn justement si des gens veulent vous ajouter et se connecter avec vous pour vous poser éventuellement d'autres questions. Je vais mettre tous les liens pour vous retrouver et retrouver vos projets pour continuer de vous suivre et continuer de suivre vos aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup.
Juste une dernière chose, si c'est possible. Allez, la toute dernière. Premier. juste pour les gens qui veulent postuler pour cette édition d'IPHD et qui cherchent un modèle Pour la vidéo d'IPHD, sachez que j'ai mis la mienne sur YouTube. Voilà, okay. Comme ça, tout le monde peut voir à peu près quoi ressemble le format, puis qu'est-ce qu'il pourrait faire comme vidéo pour après être lauréat.
On va mettre le lien.
Voilà.
Si ça te va, on va le mettre dans la description
du
podcast. Yes. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On est bon, on peut clôturer. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous trois. Et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont récupéré plein de conseils. Et bonne journée et à très bientôt.
Bonne journée.
Salut tout le monde.
Au revoir.
Salut. Ciao.
Voilà, ça y est, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. C'était un podcast Beyond Research pour BPI France. À bientôt !